citer un truc comme ça qui est produit par Siri tout à l'heure, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au tout début de l'Épître aux Romains, du chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Et je vais vous lire, je vais vous rappeler plus exactement comment tout ça se situe. Le chapitre 5, bien entendu, suit le chapitre 4. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le chapitre 4? Il nous a dit une chose concernant le salut, qui est essentielle. C'est que le salut n'est pas une chose, la façon dont nous arrivons au salut n'est pas une chose nouvelle. Ce n'est pas une chose qui vient du christianisme. Le fait qu'on est sauvé par la foi ne vient pas du christianisme, mais c'est la volonté de Dieu depuis toute éternité. Et comment est-ce qu'il le démontre? Il le démontre en disant que Abraham, au chapitre 4, il nous est dit qu'Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ayant cru à Dieu, cru à ce que Dieu lui avait dit, Dieu le déclare juste. Dieu déclare juste Abraham du fait de sa foi. Et vous le voyez au chapitre 15 de la Genèse. Vous savez, au chapitre 15 de la Genèse, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que Dieu renouvelle ses promesses à Abraham, et au chapitre 5, au verset 5 du chapitre 15, après l'avoir conduit dehors, Dieu dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Il lui montre toutes les étoiles et lui dit: telle sera ta postérité. Lui qui n'avait pas d'enfant et qui commençait à être vieillissant et qui avait une femme qui avait été stérile depuis le début. Il lui montre le ciel, telle sera ta postérité. Quelle est la réaction d'Abraham par rapport à la promesse de Dieu? Abraham eut confiance en l'Éternel, il crut, il eut confiance, et l'Éternel le lui imputa justice. C'est-à-dire que cette confiance, cette foi, le fait qu'il ait confiance en Dieu, qu'il a cru en Dieu, Dieu le déclare juste. Nous ne pouvons pas être déclarés justes sur nos actions, sur ce que nous faisons. Nous sommes déclarés justes par Dieu, par la foi. Et bon, l'apôtre Paul est en train de dire, mais vous savez, cette chose-là, le fait qu'on soit déclaré juste par la foi, n'est pas quelque chose qui est nouveau dans le christianisme, c'est quelque chose qui a toujours été. Dieu déclare juste celui qui place sa confiance en lui. Donc ça, c'était ce qui est dit dans le chapitre 4, et qui, au regard du salut, nous concerne, nous, c'est-à-dire nous. Ce que nous avons à faire pour être sauvés, c'est de croire en ce que Dieu nous dit, que Jésus est mort sur la croix pour nous, et de le croire. Ça, c'est notre côté. Mais le côté qui concerne Dieu lui-même au regard de notre salut, c'est l'œuvre de Christ. Et l'œuvre de Christ, on la voit à la fin de ce chapitre 4, lorsqu'il est dit, au partir du verset 24, c'est encore à cause de nous, et à qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Et quand il parle de Jésus, il dit qu'il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Il est livré pour nos offenses, c'est-à-dire qu'il a, pour nos offenses, il est mort sur la croix et il a versé son sang. Et c'est dans ce sang-là que nous sommes lavés. Et c'est en mourant pour nous qu'il a porté notre péché. Il est livré pour nos offenses. Et il porte notre péché à la croix. Et il est ressuscité pour notre justification à un double titre. D'une part, cela prouve sa résurrection. Prouve que le sacrifice a été suffisant. Vous pouvez le trouver, ça, dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 17, lorsque, à l'inverse, l'apôtre Paul nous dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes dans vos péchés. » Donc, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul là? Il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, cela prouve que le sacrifice n'a pas été suffisant. Mais la résurrection de Christ fait une autre chose aussi. C'est que si vous allez dans l'Épître aux Hébreux, que nous sommes en train d'étudier avec Robert, vous pouvez voir ceci. Au chapitre 9 et au verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des miens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint pour faire l'aspersion, c'est moi qui l'ajoute, avec le sang, non avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang. Ce qui fait que vous voyez que la résurrection de Christ nous montre que d'une part le sacrifice était suffisant au sens où Christ est la victime, mais aussi que il a pu faire l'aspersion du sang qu'on voyait en image dans l'Ancien Testament et qui nous montre Christ en sacrificateur. C'est ce qui fait que cette résurrection nous montre Christ en sacrificateur qui fait l'aspersion de son propre sang de lui en tant que victime. C'est ça que la résurrection nous indique. Il a pu faire l'aspersion du sang. C'est-à-dire qu'il a pu offrir son sang. Non seulement son sang était suffisant, mais encore a-t-il pu l'offrir comme un sacrificateur. Donc vous voyez que c'est absolument considérable cette œuvre de Christ. Christ en tant que victime et sacrificateur. Et vous voyez que sa résurrection est à un sens considérable. Elle nous annonce d'une part que le sacrifice est suffisant, d'autre part que le sacrificateur a pu faire l'offrande. D'accord? Mais cette résurrection de Christ, elle a aussi une autre amplitude. Elle a le fait que Christ vit. Et que, bien entendu, ça se projette dans notre vie d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que l'apôtre Paul va utiliser dans le chapitre 6 et le verset chapitre 8. Donc, voilà comment les choses se passent. Mais maintenant, étant donné ce qu'il vient de dire au chapitre 4, se pose une question, qui est la question suivante. Se pourrait-il qu'après tout ça, on perd le salut? Tout l'objet du chapitre 5 est la question de la perte de salut. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse perdre le salut? Est-ce qu'il est possible qu'après un gros péché, eh bien, le salut d'avant disparaisse? L'objet du chapitre 5, c'est d'expliquer que non. D'accord? Je ne vais pas vous faire toute cette explication, parce que, bien entendu, ça voudrait dire que j'étudie tout le chapitre 5. Or, je vais utiliser les quelques premiers versets. Mais je suis simplement en train de vous dire quel est le contexte dans lequel se placent ces versets. Et le contexte dans lequel se placent ces versets, c'est de l'explication que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, comme il dit dans les Colossiens, et que personne ne nous séparera de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne nous séparera de cela. Et l'apôtre Paul veut nous en faire la démonstration là maintenant. Mais comme il est toujours l'apôtre Paul part en direction de ça, et tout d'un coup il va voir des choses, et il va nous parler aussi d'autres choses en même temps. Et c'est de ces autres choses en même temps dont je vais vous parler, et si un jour j'ai l'occasion, je vous parlerai de la suite à partir de verset 6, etc. Donc aujourd'hui, je vais quand même me borner à ne parler que des cinq premiers versets que je vais vous dire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire ce que je vous dis. Il est en train de dire Il est en train de vous annoncer que nous avons la paix avec Dieu. Il va le démontrer à partir du verset 7, 8, etc. Mais il dit, avant de vous le démontrer, je vous l'annonce. Vous savez, comme quand vous faites, quand vous étiez gamin, vous faisiez théorème. Vous avez un théorème, et ensuite démonstration. Et là, c'est un peu la même chose. L'apôtre Paul dit, je vous l'annonce. Je vais vous le démontrer. Mais pour l'instant, je vous l'annonce. Et étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Je m'arrête. Et là, vous avez une matière énorme, considérable, que l'apôtre Paul, qui est sous-jacente à ces textes. Donc vous voyez, d'abord, je commence par regarder le verset 1, et ce qui est intéressant dans ce verset 1, c'est l'aspect temporel. Je voudrais attirer votre attention sur l'aspect temporel. Étant donc justifié par la foi, hier, quand on s'est converti, c'est à ce moment-là qu'on a été justifié. Nous avons la paix avec Dieu quand ? Aujourd'hui. D'accord ? Et nous l'avons par le Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons eu par la foi, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce ? C'est-à-dire que c'est par Christ que nous avons eu la grâce, que nous avons accès à cette grâce d'avoir la paix avec Dieu. La grâce dont il est question, c'est la paix avec Dieu. C'est à Jésus-Christ que nous devons d'avoir eu accès à quoi ? À la paix avec Dieu. D'accord ? Regardez combien l'apôtre Paul n'hésite pas à nous rappeler que c'est quand même tout est fait par Christ. N'est-ce pas ? Remarquez que l'apôtre Paul n'hésite pas à dire c'est Christ. Et donc, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes aujourd'hui. La paix dans laquelle nous sommes, la grâce, la paix dans laquelle nous sommes, nous demeurons fermes dans cette paix aujourd'hui. Et le mot ferme ici, ça veut dire que ça évoque le mot de fondation. C'est cette justification pose les fondements de la paix dans laquelle nous sommes. Nous sommes fermement installés dans cette paix. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'est pas question d'être secoué de toute façon, et il est question d'être ferme. Et regardez ce qui se passe après, et nous nous glorifions, ça veut dire que nous nous réjouissons. Nous avons une joie immense dans l'espérance de la gloire à venir. Ça, c'est demain. La gloire à venir, c'est demain. C'est quand je serai dans l'éternité, ou même mort déjà en la présence de Christ. Vous voyez ? La justification hier, la paix aujourd'hui, la gloire à venir demain. C'est vraiment toute notre vie que l'apôtre Paul a, d'une certaine façon, scanné en un seul verset, en disant que tout ça, c'est l'œuvre de Christ. C'est par Christ que nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. C'est Christ qui est l'auteur de cette joie, de ce fondation dans laquelle nous sommes. Alors, il va aller un peu plus loin aussi. Nous nous glorifions même des afflictions. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Maintenant, vous voyez que nous sommes dans la paix. L'apôtre Paul nous dit, vous êtes dans la paix dès aujourd'hui et vous êtes fermement installés dans cette paix. Ce qu'il veut nous dire, c'est ce qu'il va nous démontrer, c'est un peu plus tard, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que il pourrait, pour nous démontrer vraiment que nous sommes dans la paix et que nous serons toujours dans la paix avec Dieu, utiliser certains arguments. On pourrait dire, par exemple, regardez David. David a été désigné à Samuel quand Samuel est allé voir Isaïe, le père de David. Samuel, le Seigneur a désigné à Samuel le plus petit, le blond qui allait arriver, etc. Il m'a dit, c'est lui. N'est-ce pas? Dans la vie de David, il y a une énorme tâche. Il y a une énorme tâche dans la vie de David. La tâche, c'est quand même qu'il a commis un adultère et qu'il a commis même un meurtre par procuration. Puisqu'il se s'est débrouillé pour que Uri, le mari de la femme qu'il avait prise, meure dans un combat. D'accord ? C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Il y a adultère et meurtre. Est-ce que pour autant Dieu s'est repenti de son appel vis-à-vis de David ? Non. Car ensuite Dieu dit, parlant par exemple à Ézéchias, il lui dit « Mon serviteur David ». Il parle ou pas à Ézéchias, mais quand il rappelle sur les qualités d'Ézéchias, il dit « Comme le fut mon serviteur David ». Mon serviteur David. Et c'est à cause de mon serviteur David que je veux faire ceci et ceci en Israël. Donc Dieu ne s'est pas repenti de son appel vis-à-vis de David. Et on pourrait voir là la source du fait que Dieu ne se repent pas de ses appels. S'il a appelé David, il gardera David. S'il nous a appelés, il va nous garder. L'apôtre Paul pourrait s'appuyer sur de tels éléments, sur une telle démonstration. Regardez Moïse. Moïse. Je vous rappelle que Moïse a quand même fait un gros péché quand il a douté de Dieu au moment où il devait frapper sur le rocher aux eaux de Meriba. Il a quand même fait un péché. Pourquoi est-ce que c'est un si gros péché? Des fois, les gens disent, mais est-ce que c'est un si gros péché d'avoir douté de Dieu à Meriba? Donc il a tapé deux fois. Il n'a pas appelé Dieu, non, mais il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. C'est quand même pas très grave, on va se dire. Pourquoi est-ce que c'est si grave? C'était grave parce que Moïse parlait avec Dieu en tête à tête. Et Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle avec son ami. C'est-à-dire que la proximité de Dieu et de Moïse était telle que le fait que Moïse ait d'une certaine façon douté de Dieu à ce moment-là était très grave. Il n'est pas la même chose. Une personne qui doute de Dieu juste, qui ne connaît le Seigneur que depuis 15 jours, 3 semaines, qui est à peine converti, qui va se mettre à douter dans une circonstance comme ça, que quelqu'un qui est converti depuis 45 ou 50 ans et qui va se mettre à douter de choses dont il sait très bien que le Seigneur va le faire. C'est pas pareil. Et pour Moïse, la gravité vient de ce que il avait une telle connaissance du Seigneur que d'avoir douté à ce moment-là, c'était très grave devant Dieu. Et il n'est pas entré en terre promise. Pour autant, est-ce qu'il est rejeté par Dieu? Pas du tout. Je vous rappelle que Moïse a été enterré par Dieu lui-même, ce qui est déjà pas mal. Enfin, par les anges, un ange de Dieu, comme lui. C'est d'ailleurs Michel, je crois, qui l'a enterré. Je crois, c'est dans Jude. Oui, l'archange Michel. Et puis, Moïse fait avec Élie partie des deux qui étaient à la transfiguration. Ça ne ressemble pas du tout à un déchet, à un rejet de Dieu. Non, Dieu ne rejette pas ses élus. Il ne nous rejettera pas. Et l'apôtre Paul aurait pu utiliser ces exemples pour dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais vous verrez, quand vous allez voir lire le chapitre 5, il utilise un exemple encore plus grand que ça. Le fait qu'on ne peut pas perdre le salut s'appuie sur quelque chose qui est encore plus énorme que le fait que Dieu ne se repent pas ni de ses dons, ni de ses appels. C'est quelque chose encore plus grand. Ça se base sur l'amour de Dieu lui-même. Et c'est ce qui est écrit dans le, à partir du chapitre 6, du verset 6 du chapitre 3. Maintenant, je reviens au verset 2. Une fois que je vous ai expliqué comment tout ça s'organisait, je reviens au verset 2. Au verset 2, il y a quelque chose qui me paraît, qui est très important, et qui a été introduit un peu au verset d'avant. L'apôtre Paul nous dit, nous nous glorifions, c'est-à-dire que nous nous réjouissons même dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et ensuite, il nous dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. L'apôtre est en train de nous dire, d'une certaine façon, et je vous l'annonce, que même l'affliction participe à l'espérance. Pourquoi est-ce qu'il parle de l'affliction? Pourquoi est-ce qu'il parle de l'affliction ici? Pour une raison qui va avec l'idée même du texte qu'il est en train de traiter. On est en train de traiter de l'éventuelle perte du salut. Et les gens peuvent se dire, un chrétien peut se dire, mais avec tout ce qui m'arrive, pourtant j'appartiens au Seigneur, est-ce que par hasard, tout ce qui m'arrive ne signerait pas le fait que le Seigneur m'a abandonné? C'est pourquoi l'apôtre Paul aborde la question de l'affliction là, dans ce texte-là, dans ce passage-là. Est-ce que ça pourrait que le Seigneur m'ait abandonné? Qu'est-ce que dit donc l'apôtre Paul? Il dit l'affliction n'est pas du tout, dans ce contexte de vrai chrétien, la preuve que le Seigneur vous a abandonné. Il est la preuve qui est derrière vous pour continuer, pour que vous puissiez continuer, pour que vous construisiez l'espérance dans la gloire à venir. C'est-à-dire que l'épreuve permet de construire aussi, de participer à la construction de cette gloire. D'une part, de cette espérance. D'une part, nous espérons, mais en même temps, l'affliction va nous permettre d'espérer encore plus. Comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible par le fait que il nous décrit ici, il nous dit que d'abord l'affliction construit en nous la persévérance. La persévérance, c'est exactement le même mot que patience dont l'épître, dont l'apôtre Jacques nous parle au chapitre 1, et il nous dit, parlant de l'épreuve, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Alors vous voyez, l'apôtre Jacques dit la même chose. L'affliction, les épreuves sont des sujets de joie. L'apôtre Jacques nous dit la même chose que Paul ici, et il nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, donc les afflictions, c'est pareil. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, le mot en grec ici patience, dans Jacques, est le mot que celui qui est traduit, même mot que celui qui est traduit par persévérance dans l'épître aux Romains, dans Paul. C'est le même mot en grec. Patience, persévérance, c'est le même mot en grec. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, etc. Donc, l'apôtre Jacques, l'apôtre Paul nous disent la même chose. La fiction crée la patience, parce qu'on est obligé d'apprendre la patience. C'est un des éléments de l'affliction. Si vous avez une affliction qui ne dure pas, c'est presque pas une épreuve. Une épreuve qui ne dure pas, c'est pas une épreuve. Dans l'épreuve, il y a la nature même de l'épreuve, c'est le fait que ça dure. C'est dans la nature même de la souffrance et de l'épreuve. Et qu'est-ce que c'est dû, ce fait que ça dure engendre? Ça engendre le fait qu'à force, avec cette épreuve, on va apprendre à prier, à s'approcher de Dieu, à le chercher, et Dieu va nous donner la victoire dans l'épreuve. Vous voyez? Je crois, si on va se reporter au psaume 107... Regardez au psaume 107, au verset 4, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, vous voyez bien là, l'épreuve qui dure, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, et vous voyez qu'ils n'ont pas certainement dans cette souffrance-là, le peuple de Dieu dont il est question, ça n'a sûrement pas duré une demi-journée. Quand on vous dit qu'ils ont souffert de la faim et de la soif, c'est des souffrances qui durent. Dans ces souffrances, il y a toujours l'idée de tout ça dure. Dans l'affliction, ça dure. Et c'est pour ça que ça nous apprend à faire preuve de patience. Donc il dit, regardez dans l'un. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Donc, c'est-à-dire qu'ils attendaient un secours. Et ils se sont, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leur angoisse. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leur angoisse. Vous voyez que, dans ce qui s'est passé dans cet exemple-là qu'on voit dans le psaume 107, D'abord la souffrance qui dure, qui amène à crier à Dieu. Et ce cri à Dieu nous amène à la victoire, parce que Dieu délivre. Mais qu'est-ce que ça amène à la victoire? Ça amène à construire l'espérance, parce que si Dieu a pu me délivrer dans une telle situation, ça veut dire que sa promesse sur l'espérance va se réaliser, sur la gloire à venir va se réaliser. Si Dieu est ainsi intervenu pour moi, si Dieu m'a ainsi soutenu et m'a montré sa présence, ça veut dire que la gloire à venir dont il me parle, il va me la donner. Dans la gloire, la présence de Dieu à venir se réalisera. Ma vie dans l'éternité se réalisera et il va m'y porter, m'y amener. Et c'est pourquoi. D'une part, le salut nous amène à la vision de l'espérance, à la vision de la gloire à venir, et il construit en nous l'espérance de cette gloire. Et en même temps, il nous dit, mais les épreuves aussi. Vous voyez ? Donc, les deux participent aux mêmes choses. Maintenant, la question qui se pose et que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez l'espérance de la gloire à venir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime, qui vous réjouit, qui touche votre âme? Lorsque l'apôtre Paul nous dit « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire à venir », est-ce « nous nous glorifions », c'est-à-dire que nous sommes pleins de joie, nous réjouissons dans l'espérance de cette gloire à venir, dans l'espérance de l'éternité, en la présence de Dieu, est-ce que ça c'est quelque chose qui nous anime? Quand vous dites ça, est-ce que vous pouvez dire, eh bien, je me glorifie tous les jours dans l'espérance de l'avoir dit, ou bien est-ce que vous me dites, je suis venu dans le guidon, j'ai un problème. Or, en même temps que nous devons être fermes dans cette paix, la grâce que Dieu nous a accordée en Christ, le fait que nous soyons en paix avec Dieu, en même temps, on doit regarder devant. Comme ça. Et pas comme ça. On doit regarder devant. On doit regarder vis-à-vis, en direction de cette loi à venir. Et non pas perdre son temps à ne n'être préoccupé que par carte de main ou l'idole après-demain. Est-ce qu'on a les yeux fixés vers cette gloire qui nous est réservée? Mais on doit la voir. On doit la voir. Regardez. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, et quand il parle de l'enlèvement de l'Église, à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il nous parle de l'enlèvement de l'Église, hein, au verset 13, etc. Ensuite, au verset 17, ensuite nous les vivants qui sommes restés, verset 1 Thessaloniciens 4, 17, ensuite nous les vivants qui sommes restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Et nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui a marqué après? Consolez-vous par ces paroles. De quelles paroles s'agit-il? De celles qui précèdent. C'est qu'est-ce qui précède? Le fait qu'on va être réunis à Christ. Être réunis à Christ pour l'éternité, c'est une consolation. C'est un sujet de réjouissance. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous disait, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire à venir. Est-ce qu'on le fait, ça? Est-ce qu'on se laisse consoler par notre avenir avec Christ et en la présence de Dieu? Je vous pose la question, je vous mets un défi là. C'est un défi. Est-ce qu'on se laisse consoler par le fait d'être pour l'éternité et dans l'éternité en la présence de Dieu? Dans Philippiens, au chapitre 3, il dit, au verset 20, « Mais nous sommes citoyens des cieux. » Nous sommes citoyens des cieux. Dans les Colossiens, il nous dit, chapitre 3, que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, déjà. Mais ici, il dit, « Mais nous sommes consignés. » D'où nous attendons, écoutez ça, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Regardez notre destin. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes déjà citoyens des cieux. Notre cité est dans les cieux. Déjà. Et nous attendons la venue du Seigneur Jésus qui transformera notre corps d'humiliation, celui-ci, en un corps de gloire qui sera semblable au sien, semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sa suffisance. Mais c'est un destin phénoménal qui est devant nous. C'est un destin extraordinaire qui est devant nous. Ailleurs, il dit, réjouissez-vous sans cesse. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi, réjouissez-vous. Dans les Philippiens, il est question de se réjouir sans cesse. Réjouissez-vous sans cesse. Nous avons un destin extraordinaire, en plus des afflictions, à travers lesquelles le Seigneur va montrer sa gloire dans notre vie, sont des sujets de réjouissance et ils construisent dans nos cœurs l'espérance en la gloire à venir. Vous vous rendez compte où nous en sommes? Nous avons un destin phénoménal que Dieu nous réserve dans les cieux. Mais on n'y pense pas. Et voyez, Ce que je crois par rapport à ça, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est que dans l'Apocalypse, comme vous savez, l'Apocalypse commence par des lettres aux sept églises. Et il y a la première église, l'église d'Éphèse. C'est très étonnant, l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, regardez, au chapitre 2 de l'Apocalypse, le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse, il dit « Je connais tes œuvres ». Regardez bien, que tout le monde regarde, chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Dis, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Vous vous rendez compte? Dites, c'est quand même pas mal ça, non? Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. On peut dire quand même, il a souffert contre vous. Je connais tes œuvres. Ton travail, ta persévérance, ta patience. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Je sais que tu as éprouvé ce qu'il dit l'apôtre, donc tu as cherché dans la parole de Dieu à voir si les gens qui se présentaient comme apôtres étaient de vrais apôtres. Vraiment, question doctrine, question travail, tout ça, c'est bien, même très bien. Toutes les églises, même aujourd'hui, ne peuvent pas en dire autant. Tu as de la persévérance. Deux fois. Tu as souffert à cause de mon nom. Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton premier amour. Je me suis longtemps demandé ce qu'était ce premier amour. Je peux vous dire, pendant des années, je crois que je vois maintenant ce que c'est ce premier amour. Qu'est-ce que c'est que la perte du premier amour là? C'est la perte de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le fait que on fait pour le Seigneur, on travaille pour le Seigneur, persévérant pour le Seigneur, éventuellement on souffre pour le Seigneur, mais est-ce qu'on a envie d'être avec lui? Vous savez, c'est vieux couple. Vous savez, les vieux couples, je vous donne un exemple, ça. Les vieux couples, c'est ça. C'est ça, les vieux couples. Et là, on se trouve dans une situation où, je pense, le fait de se réjouir infiniment d'être pour l'éternité avec Christ, et que c'est ça qui me porte pour vivre, c'est ça qu'ils ont perdu. Repensez aux fiancés, les fiancés, quand ils sont fiancés, ils n'imaginent pas de vivre l'un sans l'autre. Mais quand les fiancés ont 40 ans de mariage, ou 50 ans de mariage, ils l'envisagent sans difficulté. Donc là, nous en sommes là. C'est la perte du premier amour. Non, je dis ça pour je fais allusion envers ça. C'est la perte du premier amour. Vous comprenez? Vous le dites vous-même quand vous voyez les gens. Et notre premier amour, on l'a perdu vis-à-vis de Christ le jour où, même si on fait tout pour lui, maintenant, on oublie ce que sera la joie d'être avec lui. C'est plus ça qui nous porte. Donc le défi que j'ai devant vous, c'est de ranimer en vous le premier amour et de repenser à ce que sera la gloire à venir. De placer votre espérance et notre espérance dans la gloire à venir. Nous nous glorifions de la gloire à venir, dit l'apôtre Paul. Dans l'espérance de la gloire à venir, pardon, dit l'apôtre Paul. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre au pied de la lettre. Amen. Amen.
merci Jean-Jacques pour cette parole et pour poursuivre le message la recherche de ce premier amour. On va rechanter le 315,
la dernière strophe.